Bon, et merci Clément, bonsoir à tous. Alors j'espère qu'effectivement, et toute la publicité que tu as fait, vous n'allez pas être déçus. Je vais effectivement vous parler de particules. Je pense que mon exposé s'inscrit dans la continuité de ce qu'a fait Clément, puisque je vais aussi parler de polymères, je vais parler de latex, je vais parler de silice, je vais parler de micelle. D'accord. Je vais aussi être, je pense, assez complémentaire, parce que Clément a donné un panorama en présentant plusieurs études, alors que moi, ce que je vais vous proposer assez rapidement, vous allez voir, c'est de rentrer dans une étude particulière et plutôt de la vivre chronologiquement sur une dizaine d'années pour vous montrer où on est arrivé aujourd'hui. Alors, un petit peu de vocabulaire au départ. Ce qu'on appelle... vocabulaire du chimiste, ce qu'on appelle particule, c'est un petit morceau de matière, matière solide en général. Elle peut être un peu molle, mais enfin, c'est un solide. Donc une nanoparticule, c'est un objet solide dont une des dimensions caractéristiques est inférieure à 100 nanomètres, à opposer aux microparticules, qui elles vont être du même genre, mais plus grosses. Alors, ce qu'on utilise souvent aussi, c'est le terme système colloïdal ou colloïde, qu'on peut définir comme un mélange stable dans le temps. Ça signifie que on ne voit pas de sédimentation, le système reste stable dans le temps, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est constitué d'au moins une phase dispersée, qui peut être un gaz, un liquide, un solide, dans un milieu dispersant qui est lui-même peut-être un gaz, un liquide ou un solide. Alors quand la phase dispersée est une particule, d'accord, par exemple dispersée dans un liquide, et c'est essentiellement ce dont je vous parlerai par la suite, eh bien, on utilise quelquefois le terme particule colloïdale. Vous voyez, on mélange deux types de vocabulaire. Et quelquefois, on parle même de colloïde. Le colloïde ne voulant plus dire le système colloïdal complet, mais la nanoparticule, la particule qui est utilisée à l'intérieur. Alors, en termes de dimension, je vous ai remis ici, Clément a parlé tout à l'heure de dendrimères, il a parlé aussi de nanoparticules d'or, les oxydes de fer, les micelles, par exemple, sont dans cette gamme de taille, hein, aux environs d'une dizaine de nanomètres. Les vésicules et liposomes sont un petit peu plus gros. La silice, on est capable de faire à partir de 10 nanomètres et on peut faire beaucoup plus gros. Les polymères dont je vous parlerai sont ceux qui sont préparés en émulsion, sont aux environs de 100 nanomètres. Et puis, on peut faire plus gros aussi comme polymère. En changeant un petit peu la recette, à ce moment-là, on parle de polymérisation en dispersion. Ce dont je vais vous parler, c'est essentiellement ce qui est marqué en jaune ici, qui va être un petit peu le fil conducteur de tout mon exposé. Alors, quelles sont les formes récurrentes des particules en général ? Eh bien, je dirais qu'il y a deux situations. Si la particule en elle-même est constituée d'atomes qui s'organisent en trois dimensions dans l'espace, qui se répètent régulièrement, comme ici ces empilements d'atomes, eh bien, on dit que les composés sont cristallisés et au-delà d'une certaine taille critique, eh bien, ces particules vont être facettées. Et donc, elles vont ressembler, elles vont avoir la forme d'un polyèdre. Et ce polyèdre, en général, ressemblera beaucoup à ce qu'on appelle la maille élémentaire du cristal. Donc, si la maille élémentaire est un cube, eh bien on aura souvent des arêtes et des angles à 90 degrés entre les faces des particules. En revanche, dans toutes les autres situations, quand le composé n'est pas cristallisé, c'est le cas des polymères, c'est le cas de la silice qui est un composé amorphe, eh bien la forme de base, c'est la sphère. C'est la sphère, pourquoi ? Parce que dans une sphère, c'est là qu'on peut ranger le maximum de matière tout en offrant le minimum de surface. Et comme toute la thermodynamique de ces systèmes-là consiste à minimiser la surface, eh bien la sphère est le meilleur modèle. Alors, pendant longtemps, on s'est amusé à faire des sphères. Je voulais juste vous montrer des travaux récents. Non, je vais vous montrer quelques exemples, pardon, de sphères. Alors, la silice Stöber, que j'appelle Stöber comme étant, même si, en fait, dans la pratique, il y a des travaux plus anciens que Stöber. On dit toujours Stöber, mais il y a un article plus ancien qui avait montré déjà la présence de ces particules. Je ne veux pas vous présenter la chimie parce que Clément vous en a parlé en long et en large. Ici, on part d'un alkoxyde de silicium en présence d'ammoniac dans l'éthanol, en chauffant un petit peu, eh bien, typiquement, on peut obtenir ce genre de billes puisqu'on est d'une catalyse basique qui nous amène donc à avoir un système qui va être très dense. Sur ce genre d'image, on est capable d'aller mesurer, alors ici c'est de la microscopie électronique à transmission, on est capable avec des logiciels d'aller mesurer la dimension de chacune de ces particules, de faire des statistiques sur cette image, mais aussi sur une dizaine ou une quinzaine d'images, donc vous voyez jusqu'à 2000 particules par exemple, on va faire des statistiques, on va déterminer un diamètre moyen, qui ici est à 105 nanomètres, et on va aller calculer aussi ce qu'on appelle l'indice de polydispersité, qui est le rapport entre un diamètre moyen en nombre et le diamètre moyen en poids. Mais vous pouvez retenir que plus l'indice de polydispersité tend vers 1, plus le nombre de particules qui ont le même diamètre est important. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, typiquement, ici, on a des diamètres, on a un indice de polydispersité qui est de 1,03. Vous verrez qu'on peut faire mieux, effectivement, si on regarde. On peut voir quand même qu'entre les plus grosses et les plus petites, quelquefois, il y a un facteur 2 dans le rapport des volumes. Alors, deuxième exemple de particules sphériques, c'est le polystyrène, et quand il est préparé sous la forme de ce que l'on appelle des latex. Alors, l'ingrédient conventionnel, je vais vous présenter la recette, eh bien, on part d'un système, de l'eau, un monomère, le styrène, qui est très très peu soluble dans l'eau, des molécules de tensioactif qui vont permettre de compatibiliser l'ensemble, et puis un amorceur qui va provoquer la polymérisation du monomère. En l'occurrence, ici, c'est du persulfate de sodium qui, sous l'effet de la température, va se décomposer pour donner un radical anion qui va donc entraîner la polymérisation du styrène pour en faire des longues chaînes de polystyrène. Alors, ce type de recette est complètement industriel, c'est produit à l'échelle de plusieurs milliers de tonnes tous les ans à la surface de la planète. Alors, le principe, dans sa version la plus basique, quand vous mettez dans l'eau des molécules de tensioactif, en dessous d'une certaine concentration, les molécules de tensioactif, constituées donc d'une tête polaire qui peut être chargée et d'une queue hydrophobe, sont dispersées au niveau moléculaire. Si vous passez au-delà d'une certaine concentration qu'on appelle la concentration micellaire critique, eh bien, le système se stabilise en agrégeant jusqu'à une centaine de molécules de tensioactif dans une espèce globulaire où ces molécules de tensioactif mettent en commun leur queue hydrophobe pour minimiser l'énergie avec l'eau. C'est ce qu'on appelle des micelles. Si maintenant, dans ce milieu-là, vous rajoutez du styrène qui est une molécule organique qui n'a pas spontanément envie d'aller dans l'eau, elle va former des grandes gouttelettes et il y a un certain nombre de molécules de tensioactif qui vont venir stabiliser ces gouttelettes. Alors attention, ces gouttelettes, mon schéma n'est pas du tout à l'échelle ici, les micelles sont beaucoup plus petites que les gouttelettes, hein, vous vous rappelez tout à l'heure, 5 nanomètres, alors que là, c'est plusieurs micromètres. Elles sont aussi beaucoup plus nombreuses, les micelles sont beaucoup plus nombreuses que les gouttelettes. Mais le styrène n'est jamais complètement insoluble dans l'eau. Donc, au bout de quelques instants, il y a un certain nombre de molécules de styrène qui partent dans la phase aqueuse, qui vont donc traverser la phase aqueuse et rencontrer des micelles dans lesquelles ils vont se trouver très bien à l'intérieur. Ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, on va avoir gonflement, on dit qu'on a gonflement des micelles par des molécules de monomère. Et comme le dernier ingrédient, c'est l'amorceur, et qu'il est hydrosoluble et qu'on a mis dans le milieu, dès qu'on va élever la température, l'amorceur va se décomposer pour former des radicaux libres. Ce radical libre va rencontrer une première molécule de monomère pour former un centre actif, avec une deuxième, une troisième, former une toute petite chaîne en croissance de polystyrène qui devient de plus en plus hydrophobe et qui ne va avoir qu'une seule envie, c'est aller se réfugier à l'endroit où le milieu est organique, c'est-à-dire l'intérieur des micelles. Donc, quelques instants plus tard, eh bien, les centres actifs sont arrivés dans les micelles et tout le monomère qui est à l'intérieur des micelles polymérise pour donner des germes, ce qui va devenir par la suite des particules. Donc, le système continue à évoluer, les gouttelettes de monomère se vident au fur et à mesure en styrène parce que le styrène est consommé par les micelles et dans les micelles, il est consommé par la polymérisation. Ce qui fait qu'en fin de réaction, eh bien, on obtient des particules de latex qui sont finalement constituées de chaînes de polystyrène stabilisées par des molécules de tensioactif, et tout ça, ça forme un milieu complètement stable dans le temps, dans l'eau. C'est, alors, ce colloïde, donc ce système colloïdal, c'est ce qu'on appelle donc un latex, et on parle plutôt de particules de latex, qui en l'occurrence ici serait du polystyrène. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que alors, les sphères, donc, c'est assez facile à faire et c'est formé assez spontanément, donc avec ces systèmes, que ce soit la silice ou le polystyrène. Il y a quand même pas mal de gens qui, ces derniers temps, essayent de trouver des moyens de faire des particules de polymères qui ne seraient pas sphériques. Alors, dans un travail récent que j'ai trouvé ici, qui est assez intéressant, consiste à partir de fameuses particules de polystyrène dont je vous parlais à l'instant. On les met dans un polymère hydrophile qui est le polyalcool vinylique et on va en faire un film. Hein, on fait une dispersion de particules de polystyrène dans un film de PVA. On va chauffer ce film à une température suffisante pour que les particules de polystyrène deviennent déformables, deviennent molles. Donc, au-delà de la température de transition vitreuse, même vraisemblablement au-delà de la température de fluidification. À ce moment-là, c'est comme si on avait un système très fluide à l'intérieur. À ce moment-là, notre film de PVA, on fait un étirement uniaxial, par exemple, on va déformer sous cette forme-là les particules, on laisse refroidir. Le film de PVA est soluble dans l'eau, donc il suffit de remettre tout ça dans l'eau et on récupère des particules de polymère qui vont avoir ces formes-là. On a une autre option, c'est de faire l'étirement avant de chauffer. Donc à ce moment-là, on crée du vide. En chauffant, eh bien, le polymère va réinvestir ce vide et former après refroidissement des particules. Donc vous avez un exemple ici, vous avez les particules de polystyrène initiales et puis voilà ce qu'on peut en faire en fonction des protocoles. De la protocole et des séquences du protocole que je viens de vous présenter. Pour la silice, on ne peut pas utiliser du tout la même recette, parce que la silice n'est pas déformable de la même façon que les polymères. On pourrait imaginer de les déformer, mais il faudrait monter à des températures beaucoup plus élevées. Donc pour ça, il y a un travail très récent qui est sorti en début d'année et qui montre qu'il est néanmoins possible de former des bâtonnets de silice. Et le principe est le suivant. Dans un milieu, on va dire, stubber, dans lequel on va avoir de l'eau, de l'ammoniac, dans un alcool, qui est le pentanol cette fois-ci, eh bien, on va rajouter un polymère, le polyvinyl pyrolidone, et on va donc, ce qui a été observé, c'est que si on rajoute de l'acide citrique, eh bien, ou du citrate de sodium, c'est-à-dire la version, le sel, eh bien, on n'a pas mixité entre le pentanol, l'ammoniac, l'eau et le théos. On forme des espèces de nanogouttelettes. D'accord ? Ici, c'est 200 nanomètres. De nanogouttelettes, donc on a autour le pentanol. Ici, on a de l'eau, l'ammoniac, le PVP. Et si on rajoute le théos, maintenant le précurseur de silice, dans la solution, il est organique au début, puisqu'il est SiO été 4 fois. Il est soluble dans le pentanol. Mais quand il arrive à l'interface ici avec la gouttelette d'eau, il va s'hydrolyser. En s'hydrolysant, il va rentrer dans la gouttelette, il va condenser, et en général, il va condenser dans une zone qui est là. Et au fur et à mesure que le théos va être alimenté, eh bien, la particule de silice va pousser dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle grandit dans cette direction-là. Ce qui fait qu'à la fin, on peut obtenir des bâtonnets avec un diamètre moyen qui est toujours celui de la gouttelette de départ, mais un facteur de forme qui est en fonction de la quantité de théos qu'on a mis, qui peut aller jusqu'à 25, le facteur de forme étant le rapport entre la longueur sur le diamètre. Donc vous voyez qu'il est possible de contourner la nature pour faire des objets qui ne sont pas sphériques. Alors, ces objets sphériques, ils ont pourtant, depuis que les chimistes savent faire des objets sphériques particulièrement bien calibrés, les physico-chimistes s'en sont emparés, parce qu'on sait depuis longtemps que les atomes, même s'ils sont essentiellement constitués de vide, hein, un noyau et puis un nuage électronique, mais qui est très peu dense, se comportent en fait comme des sphères rigides. Et les physico-chimistes, quand ils ont vu qu'on pouvait avoir des particules sphériques bien calibrées, ils s'en sont servis comme système modèle pour étudier les empilements de ces particules, leurs défauts et leurs transitions de phase, pour mieux comprendre ce qui se passe avec les atomes. Seulement, avec des atomes, des sphères, le nombre d'empilements qu'on peut faire est relativement limité. Par contre, on sait qu'avec des molécules, donc qui sont constituées de plusieurs atomes, souvent de nature chimique différente, eh bien, on peut faire des empilements plus variés. Donc, la grande idée, c'est si on sait aujourd'hui que des colloïdes sphériques peuvent imiter des atomes, est-ce que des agrégats de colloïdes sphériques pourraient imiter des molécules ? En gros, vous avez ici un agrégat type qui serait constitué d'une particule centrale autour de laquelle il y aurait quatre autres particules connectées, si possible pointant vers les quatre sommets d'un tétraèdre dont la particule centrale occuperait le centre. Et si on était capable de faire ce type de particule, ça reviendrait à pouvoir imiter la molécule de méthane. Alors, si on regarde un petit peu le bestiaire qu'on pourrait visiter, on a très récemment présenté toute une analyse de la littérature dans ce Chem Socrev qui est sorti en début d'année. Eh bien, vous voyez que le tétraèdre dont je vous parlais, il est ici. On pourrait s'amuser à faire des octaèdres, c'est-à-dire mimer la molécule SF6. On pourrait s'amuser à faire des triangles équilatéraux, c'est la molécule BF3, etc. Et vous voyez, j'ai remis ici la nomenclature de la théorie VSEPR ou le formalisme de Gillespie qui décrit la géométrie des liaisons autour d'un atome central au niveau moléculaire. Eh bien, si on était capable de faire la même chose avec des particules, on pourrait donc imaginer de mimer les propriétés. Alors, en faisant cette revue, on s'est aperçu qu'il y a pas mal de choses qui existent dans la littérature. Il y a trois principales voies. La première voie consiste à prendre des particules préformées et essayer de trouver le moyen de les accrocher entre elles, on va dire de clusteriser, d'en faire un cluster. Alors, on peut travailler sur des phénomènes de coalescence, c'est ce qu'ont fait Kegel et Weitz. On peut travailler sur de la liaison covalente, en particulier des molécules, des fragments d'ADN, hein, des brins d'ADN qui peuvent venir se coller entre les particules et faire qu'elles s'associent. Donc, c'est les travaux de Mirkin, d'Alivisatos, etc. On peut essayer de les confiner. Alors, les confiner dans un milieu bidimensionnel. On va prendre une plaque de lithographie dans laquelle on va faire des tout petits trous. On va laisser glisser une solution dans laquelle il y a les particules. Et par un phénomène de démouillage, eh bien, les particules vont venir se loger dans les petits trous. Et si on en loge trois, eh bien, après, on trouvera le moyen de venir les accrocher toutes les trois. Là, par contre, vous imaginez qu'on ne va pas faire de la production industrielle avec un procédé comme celui-ci. Par contre, si on est capable de faire la même chose au sein de gouttelettes d'émulsion, hein, c'est ce qu'ont fait Pine et Yang ces dernières années, ça, à ce moment-là, c'est du confinement 3D, et là, déjà, les productions à plus grande échelle sont envisageables. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure, ça consiste à tirer parti de la séparation de phase dans une polymérisation en émulsion qu'on va dire ensemencée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, la dernière voie, et c'est celle qu'on a développée, sur laquelle donc, je m'attarderai un petit peu plus tard, c'est la nucléation croissance de surface. On prend une particule qui va constituer l'atome central de la molécule colloïdale que l'on veut préparer, et on va s'arranger pour venir faire nucléer à la surface les nodules périphériques, les nodules satellites qui vont faire donc les atomes périphériques. Alors, sur cette première méthode, la voie de séparation de phase, le principe est le suivant. On repart d'une polymérisation en émulsion, que je vous ai décrit à l'instant, seulement on va dire qu'elle est ensemencée. Elle est ensemencée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre dans le milieu des particules qui sont déjà préformées. Et on ne va pas mettre dans ce cas-là n'importe quelle particule, on va mettre une particule de latex qu'on a préparée au préalable, mais qui est réticulée, c'est-à-dire que le polymère qui est dans cette particule de latex, ce ne sont pas que des chaînes linéaires, elles sont aussi de temps en temps connectées entre elles, ce qui fait que si on rajoute un solvant sur ce type de particule, elles ne vont pas se dissoudre, mais elles vont gonfler. Donc, si on remet cette particule dans un milieu de polymérisation en émulsion, à ce moment-là, on rajoute le monomère, et le monomère, plutôt que de former des grandes gouttelettes réservoirs, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il va venir gonfler cette particule de polystyrène réticulée, par exemple. En le gonflant, d'accord, il va se créer une contrainte élastique, puisque le monomère ne veut pas aller dans l'eau, d'accord, et donc il va rester à l'intérieur, et comme les macromolécules ne peuvent pas se détendre à l'infini, il y a une contrainte mécanique, une contrainte élastique qui s'applique sur les particules. Et quand on va provoquer la polymérisation de ce monomère qui a gonflé la particule de latex initiale, eh bien, combiné à cette contrainte élastique, plus le fait que les polymères sont rarement miscibles entre eux, eh bien, il va apparaître l'expulsion partielle du nouveau polymère, et on va former un nodule qui va sortir du premier. Alors, ça, c'est des travaux, c'est des phénomènes qui étaient connus depuis longtemps. Là, je ne cite que des travaux récents, mais Okubo, etc., l'avait vu depuis longtemps, il l'avait signalé. Mais très récemment, il y a des gens qui ont utilisé ça pour faire des molécules colloïdales. En travaillant en plusieurs étapes, d'accord, vous avez là, eh bien, il y a moyen de faire des molécules, et si vous vous rappelez les schémas qu'a présenté Clément tout à l'heure, ça peut mimer ça, une molécule d'eau, puisqu'une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, avec un angle de 104 degrés entre les deux liaisons, donc là, on n'est pas très loin. C'est des molécules colloïdales de type AX2O2, alors elles sont tout polymères. Tout polymères, ça veut dire que quand on voudra étudier les interactions entre ces particules, ça sera un petit peu plus compliqué parce que la chimie ici, à la surface, a de fortes chances d'être identique à celle-ci. Et puis, l'inconvénient, c'est que c'est une synthèse multi-étape, hein, et on est obligé de faire grossir, nodule par nodule, la particule. C'est pour ça, moi, je vais vous présenter une autre voie qui consiste à non plus utiliser un polymère gonflable comme germe, hein, pour ensemencer la polymérisation en émulsion, mais un germe qui, lui, n'est pas capable de gonfler et qui est justement une particule de silice. À ce moment-là, s'il doit se produire quelque chose, ça ne pourra pas se produire depuis l'intérieur, depuis le volume du germe, mais ça sera nécessairement à la surface. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, finalement, elle commence ici, dans la synthèse de germes, donc dans des conditions Stöber. Je vous ai déjà montré tout à l'heure comment on le fait. On obtient des germes. Si on veut qu'ils soient compatibles avec de la polymérisation en émulsion, il va falloir penser à modifier la surface de ce germe de façon à faire en sorte que les macromolécules en croissance du polymère aient envie de venir nucléer et croître à la surface. Et puis ensuite, on peut espérer qu'il y ait un nodule de latex qui vienne s'installer ici à la surface et puis qui grossisse et qui va nous permettre de faire donc ce type d'objet. Alors, on choisira ici, je signale tout de suite, des molécules qui vont présenter une fonction polymérisable. Ce qui fait qu'on suppose que le nodule de latex, ici, sera chimiquement lié à la surface, puisqu'il sera, on suppose qu'il y aura copolymérisation entre ce groupe-là et toutes les molécules de styrène qui sont déjà dans le nodule. Alors, la recette dont je vais vous parler, de polymérisation, pour l'instant, je ne vais pas mettre de germes, cette recette de polymérisation, elle utilise un tensioactif qu'on dit non ionique, d'accord, puisqu'il est ici constitué de sa queue hydrophobe, avec le noyau aromatique ici, et puis ici, on a une tête qui est polaire, qui est tout simplement un oligomère de polyoxyde d'éthylène. En travaillant dans ces conditions de concentration en styrène, en tensioactif, donc 20 fois la CMC, de façon à être sûr d'avoir beaucoup de micelles, on a toujours le même amorceur et une température de 70 degrés. Voici ce qu'on observe au cours du temps. Donc on mesure la conversion. Pour mesurer la conversion, on va tout simplement faire des prélèvements au cours du temps. On va laisser évaporer l'eau, le monomère qui n'a pas réagi, etc. Et on va peser. Et ce qu'on va peser, c'est nécessairement du tensioactif, mais aussi le polymère qui s'est formé. C'est comme ça qu'on est capable d'aller mesurer la quantité de polymère formé au cours du temps. Si ces prélèvements, on les regarde aussi en microscopie électronique, on est capable d'aller déterminer leur diamètre moyen en nombre. D'accord ? Donc on voit ici que dans ce genre de polymérisation, non seulement on s'arrête à peu près 70% de rendement, donc on a un système plutôt paresseux, c'est vraiment très paresseux parce que si vous regardez en termes d'échelle de temps, on atteint ici en 24 heures. D'accord ? Et on finit avec des objets qui font 250 nanomètres. Comme on connaît la quantité de matière et on connaît la taille des objets, on est capable de calculer le nombre de particules de latex qui sont apparues dans le milieu. Alors on voit que ce nombre au début, il est instable, il a tendance à diminuer, donc on a un peu de coagulation au début, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas assez de tensioactif pour stabiliser tout le monde, donc les particules sont créées, mais elles ont tendance à fusionner. Et puis au bout d'un certain temps, on se stabilise ici avec un nombre de particules qui va rester constant tout le reste de la polymérisation. Alors, je vous ai dit que quand on va mettre nos germes de silice, au début, on a mis nos germes de silice, mais ils étaient nus, hein, ils étaient de silice, donc en surface essentiellement SiOH. Si on met des particules nues de silice dans ce type de polymérisation, eh bien, elles vont être spectateurs parce qu'elles aiment l'eau. Le polymère n'a aucune affinité pour la surface de la silice, et donc à la fin, on aura un mélange de particules de silice et de particules de latex. Si on veut qu'il y ait des interactions, eh bien, il faut qu'on modifie, comme je vous disais tout à l'heure, la surface des particules. Et pour ça, une des premières recettes a consisté à venir adsorber ce genre de molécules à la surface. Donc c'est de l'adsorption, d'accord ? On parle d'un macromonomère parce que finalement, il y a un groupement polymérisable ici, métacrylate de méthyle, qui est au bout d'un oligomère de polyoxyde d'éthylène. En travaillant dans ces conditions-là, vous avez là-bas, vous retrouvez toutes les conditions, de la silice de 500 nanomètres, vous avez toutes les concentrations, et au bout de deux heures, c'est-à-dire une conversion qui était en monomère qui était de 30%, voici ce qu'on a obtenu. Et ça, c'est ce qu'on voit en microscopie électronique à balayage. Mais si on fait une image en microscopie électronique à transmission, on peut voir qu'au milieu de ces assemblages ici qu'on appelle des framboises, eh bien, on a bien notre bille de silice et qu'on a beaucoup de nodules de polystyrène qui sont venus se former à la surface. Donc, la grande question, c'est ces framboises, est-ce qu'on peut dériver cette recette pour aller contrôler le nombre de nodules que l'on crée à la surface et, par exemple, le ramener à 4 si on veut faire ce fameux tétraèdre qu'on va appeler un tétrapode qui ressemble à la molécule de CH4. Alors pour ça, une des recettes, et c'est l'étudiant qui s'est surtout intéressé à cette démarche, c'est Stéphane Reculusa, a consisté à raisonner en se disant, finalement, pour contrôler, comme je sais le nombre de particules de latex que j'ai créées dans mon réacteur, je peux ajuster le nombre de germes que je peux mettre aussi dans le réacteur. Et donc, en jouant sur ce rapport-là, est-ce que finalement, statistiquement, je ne vais pas contrôler ce nombre de nodules par germe ? Et effectivement, en travaillant un rapport 1 pour 1, on pourrait espérer obtenir ceci, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, etc. Et en travaillant 1 pour 1 avec une toute petite silice, parce qu'il fallait une grande concentration, donc il fallait que la silice soit petite, eh bien, on a obtenu donc, ce genre d'objet. D'accord ? Donc là, je suis désolé, on n'en voit que 3 sur la photo. Là, on n'en voit qu'un. Quand on a travaillé 1 sur 2, le problème, on a fait des photos où c'était très dilué. On voit ici qu'on forme ce qu'on appelle des morphologies en tête de Mickey. D'accord ? Deux nodules de polystyrène autour d'un germe de silice. Quand on travaille dans les conditions où le rapport est 1 pour 6 avec une silice de 127 nanomètres, eh bien, on peut voir qu'on a ajusté ici 6 nodules de silice en moyenne par germe, synodule de polystyrène, pardon, par germe de silice. Alors, le problème, et d'ailleurs, c'est l'image qu'a présentée Clément tout à l'heure à la fin, où il a présenté ce genre d'objet. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, en fait, ils étaient effondrés, ils étaient tout plats, ces objets. Ils étaient à plat sur la grille. En fait, ces objets, ils sont très fragiles. Pourquoi ? Parce que le macromonomère qu'on a utilisé pour modifier la surface de la silice ne développe pas des interactions très fortes. Combiné au fait qu'on fait ces observations à 30% de conversion seulement en monomère, avec des nodules qui sont mous, eh bien, ils ont tendance à s'effondrer sur la grille. Donc, pour corriger ça, on a en particulier changé la molécule qui permet de faire une modification, et là, on a utilisé un silane qui, lui, va être chimiquement greffé à la surface du germe de silice et qui porte toujours cette fonction métacrylate. Alors, ce qui est important, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il faut impérativement contrôler la quantité de silane que l'on greffe. Parce que si je vous essayais de saturer la surface en mettant, par exemple, une concentration surfacique nominale, alors quand je dis nominale, ça veut dire que c'est ce qu'on a mis dans le réacteur, on a mis 16,16 micromoles de cette molécule, hein, celle-ci, par mètre carré de silice développé. Ça ne veut pas dire que tout s'est greffé. Quand je dis nominal, c'est ce qu'on a mis. D'accord ? Ça se trouve, on n'en a greffé que la moitié. Eh bien, on a obtenu ce genre, quand on fait après la polymérisation, en fonction de la taille de la silice, on va prendre cet exemple-là, par exemple, on voit que le germe de silice est là et le polystyrène a englobé entièrement la silice. Et en fait, ce qui est important ici de comprendre, et ça va être récurrent à toute la suite de mon exposé, c'est que la densité de silane qui est greffée à la surface de la silice va complètement contrôler la mouillabilité du nodule de polystyrène sur le germe de silice. Un petit schéma pour vous l'expliquer. Donc ici, on a notre germe de silice, et là, on l'a mis dans des réactions de polymérisation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si on ne modifie pas, si le taux de greffage est zéro, on n'a pas modifié la surface de la silice, eh bien, le nodule de latex va croître indépendamment, à la fin, on aura un mélange. D'accord ? Le nodule de latex aura vécu sa vie indépendamment de la silice, qui aura seulement été spectatrice de la réaction. Au contraire, si on sature la surface, on a vu qu'à ce moment-là, la surface est très organophile, beaucoup de germes de latex vont venir s'accrocher à la surface et vont former un film continu et on va à la fin encapsuler. Et bien évidemment, il y a tous les cas intermédiaires où vous avez, je vous l'ai montré sur une image juste avant, vous avez un corchel décentré, hein, c'est typiquement ce qui s'est passé là avec un système intermédiaire. Et puis le système qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir accrocher un nodule, mais lui laisser vivre sa vie tout en laissant la silice disponible, une partie de la surface disponible. Donc, en travaillant cette fois non plus à 16 micromoles par mètre carré, mais en divisant par 10 la concentration, eh bien, c'est Adeline, dont Clément parlait tout à l'heure, qui s'est amusée à faire varier un autre paramètre. Elle s'est amusée à faire varier la taille de la silice. Le raisonnement n'était pas le même que celui de Stéphane. Stéphane s'est dit, moi, je vais ajuster le nombre de germes par rapport au nombre de particules de latex qui sont supposées arriver dans le réacteur. Elle s'est dit, je vais faire un autre raisonnement, c'est celui de me dire, le nombre de nodules, je vais pas du tout jouer sur ce rapport-là, je vais toujours me mettre en excès de latex, mais je vais contrôler le nombre de latex que j'accroche sur la silice tout simplement par la taille de la silice, hein, par la surface qui est offerte. Donc, elle a imaginé qu'elle pourrait faire un point d'accrocher 2, 3, 4, 6, 8, et c'est ce qu'elle a effectivement obtenu en travaillant avec des silices qui sont progressivement plus grandes. Vous pouvez voir ici, quand il y en a deux, vous pouvez remarquer que dans cette situation, on n'est pas du tout dans la même situation que tout à l'heure, où on avait la tête de Mickey, d'accord ? Là, on a vraiment deux nodules de polystyrène qui ont poussé avec, suivant une figure de répulsion qui est une droite, ici, d'accord ? Et non pas avec un angle qui aurait pu nous servir à imiter, par exemple, la molécule d'eau. Donc, vous avez ici les tripodes, tétrapodes, hexapodes. L'hexapode se présente sous la forme d'un antiprisme à base trigonale et le tétrapode qui se présente sous la forme d'un antiprisme à base carrée. Alors, ça, vraisemblablement, vous vous dites comment a-t-elle fait pour aller déterminer les tailles ici, ou alors combien elle a fait d'essais pour trouver les bonnes tailles qui ont fait les bonnes silices. Alors, en fait, là-dessus, il y a eu un raisonnement assez subtil en s'inspirant de travaux de mathématiciens qui étaient sortis quelques années avant, où cette personne, Batty, a essayé de minimiser l'énergie de n points qui serait à la surface d'une sphère, d'accord, et qui pourrait se positionner à la surface d'une sphère. Et en fait, l'énergie potentielle du système, elle résulte de la somme de deux termes. Le premier terme qui dit qu'il doit y avoir attraction entre chacun des points et la sphère centrale, et un terme de répulsion disant que chacun des points doit être à une distance maximale par rapport aux autres. Alors, c'est le principe des détecteurs ennemis pour ceux qui connaissent. À partir de là, on a été capable de déduire une formule qui nous permet de calculer le diamètre, enfin ici le rayon de la bille de silice dont on a besoin si on veut obtenir, par exemple, un nombre de polystyrène par germe égal à 2, égal à 3, égal à 4. Alors, il y a une constante K qu'il fallait déterminer. Pour déterminer cette constante K, on s'est appuyé sur deux recettes qu'on avait publiées quelques années avant, sur lesquelles on s'était aperçu qu'on obtenait un relativement bon rendement d'hexapodes pour une silice à 127 nanomètres et d'octopodes pour une silice de 170 nanomètres. Donc l'avantage, c'est que ça nous a fait deux premiers points. De ces deux premiers points, on a pu en déduire cette fameuse constante K. Et à partir de là, elle a pu deviner les autres valeurs de diamètre de silice qu'il fallait pour faire 2, 3, 4, 6, jusqu'à 12 nodules par germe de silice. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir ces particules, ces objets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la surface, en fait? Et ça, c'est David qui a essayé de comprendre ça. L'idée, c'est est-ce qu'on a une idée de comment se fait la nucléation, comment se fait la croissance et comment on arrive à des objets symétriques comme ceci à la fin? Alors, pour ça, il a utilisé une technique qui est la cryotomographie électronique. Alors, il y a deux termes là, c'est un mélange de deux techniques. La première, c'est la cryomicroscopie électronique. Le principe, c'est je ne vais pas récupérer les particules, comme j'ai fait sur toutes les photos que je vous ai montrées avant, les particules dans un liquide, que je vais laisser sur une grille de microscopie électronique, je vais laisser le solvant s'évaporer, je vais aller regarder les objets secs sur la grille. La cryomicroscopie, je vais prélever directement une goutte de liquide dans le réacteur, je vais la congeler, et c'est cette goutte congelée que je vais regarder. Donc je vais voir l'objet tel qu'il était dans le réacteur. Ça, c'est la première chose, c'est la cryomicroscopie. La deuxième chose, c'est la tomographie électronique. Le principe, c'est que quand on regarde un objet en microscopie, par exemple, si la direction du faisceau électronique est comme ceci, on récupère cette projection. Mais si on est capable de faire tourner cet objet, d'incliner la grille, d'incliner le porte-échantillon, et de faire jusqu'à, là en l'occurrence, on a fait 61 photos, en faisant varier de moins 60 degrés jusqu'à plus 60 degrés, et en prenant une photo tous les 2 degrés. Donc voici les différentes projections qu'on a obtenues. En utilisant toutes ces projections et les rentrant dans un ordinateur, il est possible de reconstruire l'objet. On reconstruit un objet en trois dimensions. Ça devient un objet mathématique qu'on peut manipuler. On a reconstitué une image en trois dimensions. Alors, on a donc David a fait plusieurs prélèvements au cours du temps, directement dans le réacteur, congelés, et ensuite il a refait les constructions. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, au temps très court, à 5 minutes, on observe déjà quelques nodules de polystyrène. Alors, l'avantage de la tomographie, c'est que cet objet, je peux le manipuler, donc je peux aller compter ce qu'il y a derrière. On est bien d'accord, hein ? Donc, l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'en moyenne, je crois qu'au départ, là, c'est pas vraiment évident sur cette photo, mais en moyenne, on avait une quinzaine de nodules à 5 minutes. Et puis, au bout de 10 minutes, puis de 20 minutes, on peut voir que les nodules grossissent, bien évidemment. Alors, vous l'avez compris, à chaque fois, c'est un échantillon prélevé différent. Donc, cet échantillon n'est pas celui-ci, vous l'avez compris ? À chaque fois, c'est un échantillon prélevé à un temps supérieur. Donc, les nodules grossissent, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que leur nombre va se stabiliser et ils vont commencer à prendre la bonne position autour de l'objet. Alors, ici, Antoine Thiel, qui travaille avec nous ces dernières années, et donc qui est de laboratoire Lyon, au CEA à Saclay, a développé un petit modèle. Alors, je vais juste utiliser son modèle. Son modèle est très puissant et en ce moment, on est en train de l'exploiter au maximum. Je n'irai pas jusqu'à vous présenter ces résultats-là. Juste, il a juste fait une petite animation GIF ici qui montre ce qui se passe. Comment on s'imagine ce qui se passe à la surface? En fait, au départ, on a un certain nombre de nodules qui nucléent à la surface, et puis ces nodules commencent à se rencontrer, ils ont plusieurs solutions, soit se déplacer, soit fusionner, soit être éliminés. Là, dans ce film, ils sont éliminés au fur et à mesure qu'ils sont trop gros. Et puis à la fin, eh bien, on a un objet, et la morphologie se fige au moment où il n'y a plus de monomère dans le milieu. Et là, le film va jusqu'au bout, le moment où on a carrément tout éliminé, ou presque, mais la cinétique telle qu'on s'imagine, alors bien sûr c'est accéléré là, mais le mécanisme tel qu'on s'imagine, il est là. Et en plus, il peut faire varier des tas de paramètres, la nucléation, la croissance, le fait qu'elle puisse se déplacer à la surface. Alors effectivement, le fait qu'elle puisse se déplacer à la surface, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est que quand on voit que des nodules ici, au début, commencent à grossir, ils sont nombreux, quand il y en a un qui disparaît, on peut se dire il a peut-être été éliminé, d'accord ? Ou il a fusionné avec un autre, ça peut conduire à un plus gros nodule comme celui-ci, mais à la fin, on voit qu'il n'y en a plus que 7, qu'il n'y en a plus que 8, et là, ils commencent à s'organiser à la surface. Ils sont capables de se déplacer à la surface. Et s'ils sont capables de se déplacer à la surface, là, ça nous pose une petite question. On les avait accrochés avec des liaisons covalentes à la surface. Donc là, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que le système est prêt à faire, est prêt à assumer le coût énergétique d'extraire la macromolécule qui est greffée pour qu'elle reste à la surface, même s'il y a du tension actif qui va la stabiliser, pour que le nodule se déplace et se mette au bon endroit? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Toujours est-il que ce phénomène de coagulation, qu'on peut imaginer facilement en trois dimensions, eh bien, il se produit aussi, dans un milieu homogène, il se produit aussi à la surface, et là, c'est déjà plus original. L'avantage de la tomographie, c'est qu'on peut aussi aller déterminer, puisqu'on peut correctement positionner le centre du nodule avec le centre du germe, on peut aller lire parfaitement, sans aucune aberration ici, l'angle de contact. Et on peut montrer d'ailleurs, en superposant toutes les images ici, que l'angle de contact reste constant tout au long de la réaction. D'accord ? Donc il est bien dû finalement à la physico-chimie de la surface, et donc nous, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on interprète le fait qu'il est dû tout simplement au taux de greffage du SILAN. Voilà. Alors, ici, j'ai résumé les morphologies qui sont obtenues. Vous pourrez remarquer que je ne vous ai jamais montré beaucoup de photos où il y a beaucoup d'objets. De ce point de vue, c'est un petit peu vrai, même si on a pu publier ça dans Angevant il y a 2 ans. Je ne vous ai pas parlé des rendements. Ce qui est sûr, c'est que quand on accroche peu de latex sur les germes de silice, les rendements sont en général pas trop mauvais, 60-70%. Par contre, plus on va en accrocher, plus le nombre d'hexapodes, par exemple, va être faible. Il va tomber à 40%, parce qu'on aura un mélange de système à 5 nodules, de mélange à 7 nodules, etc. Donc, pour essayer d'améliorer ce rendement, la première piste qu'on s'est donnée, c'est de se dire, puisqu'on a vu que ça dépendait de la taille, c'était très sensible à la taille, le nombre de nodules, eh bien, on va resserrer la distribution en taille des germes de silice. On va faire des germes de silice très monodisperses, de façon à éviter ce phénomène de dispersion de morphologie due finalement à la dispersion de la taille des germes. Et puis, il y a quand même un gros inconvénient dans notre système, on ne s'en est jamais vanté non plus, c'est que toutes les morphologies que vous voyez là, c'est obtenu pour un taux de conversion de entre 15 et 30% du styrène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste entre 70 et 85% de styrène dans le milieu, hein, qu'il faut éliminer par dialyse, etc. C'est très long, c'est pas du tout intéressant d'un point de vue industriel, donc il fallait améliorer la recette de ce point de vue, de façon à pouvoir espérer, par exemple, faire nos morphologies, mais à taux de conversion du monomère complet. Et ça, eh bien, c'est Anthony qui va soutenir dans 2 semaines, qui s'est attelé à relever ces défis-là d'optimisation des recettes. Alors, la première méthode, ça a été de développer une silice monodisperse. Alors, pour ça, on a profité de résultats récents dans la littérature qui ont consisté à montrer qu'on pouvait obtenir des pré-germes, alors je vais appeler ça des pré-germes de silice, des toutes petites particules de silice, par un procédé qui est assez simple, qui consiste à ne pas faire un mélange homogène comme dans le principe de Stöber. On va tout simplement agiter doucement un milieu dans lequel on a de l'eau, et puis non pas de l'ammoniac, mais un acide aminé, qui est ici la L-arginine, d'accord ? Et on va verser le théos au-dessus, nous on n'utilise même pas le cyclohexane pour diluer le théos. Le théos, il est non miscible dans l'eau tant qu'il n'est pas hydrolysé, donc il fait une phase au-dessus. Et donc toute la vitesse d'hydrolyse va être contrôlée par la surface, par l'interface ici qui est développée. Et donc au fur et à mesure que le théos s'hydrolyse, il vient dans la phase aqueuse, rencontre l'arginine qui catalyse sa polycondensation, on obtient des germes de ce type-là, avec ici des, on va appeler ça des pré-germes de 26 nanomètres. Et la deuxième étape consiste à recroître, d'accord ? On va reprendre ces pré-germes. On va les mettre cette fois dans un milieu Stöber classique, ammoniac, éthanol, d'accord ? Et on va rajouter le théos à une vitesse contrôlée. Et là, on arrive à obtenir des silices dont le diamètre moyen est contrôlé au nanomètre près, et avec cette fois un indice de polydispersité qui est typiquement de 1.003 à 1.002, d'accord ? Toujours inférieur à 1.005. Et vous pouvez remarquer ici que là, les silices sont nettement plus calibrés. Concernant la recette de polymérisation qu'il fallait optimiser aussi pour faire qu'on ait les morphologies à conversion totale. Eh bien, la recette précédente, je vous rappelle, utilisait un tensioactif qui rend le système paresseux parce qu'il n'est pas très stabilisant, qui est donc le NP30 dont je vous ai déjà donné la formule. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, la réaction est paresseuse. Rien qu'en rajoutant 5% d'un autre tensioactif qui est, lui, beaucoup plus nucléant, beaucoup plus stabilisant, qui, lui, est ionique, qui est le dodécyl sulfate de sodium, dont vous avez ici la formule chimique, vous pouvez remarquer que cette fois, la réaction de polymérisation est boostée et qu'en 4 heures, non seulement on a atteint 100% de conversion. Donc, en 4 heures, on a obtenu 100% de conversion du polymère, donc on a augmenté une cinétique plus rapide, complète en 4 heures, plus reproductible, et puis avec des latex, ça ne gâche rien, qui sont à la fois plus monodisperses. Il faut garder dans l'esprit que comme le milieu est beaucoup plus nucléant, si c'est beaucoup plus rapide, c'est parce qu'on a formé beaucoup plus de particules au départ, et donc les particules qu'on obtient à la fin sont plus nombreuses et plus petites. D'accord ? Il faut garder ça à l'esprit, ça va être important pour la suite. Donc à partir de cette nouvelle recette de polymérisation, avec ces nouveaux germes de silice, eh bien, on s'est dit, on va repartir de notre silice de 85 nanomètres et on va voir si on obtient toujours nos fameux tétrapodes qu'on obtenait dans la recette précédente. Et là, surprise, on n'a pas obtenu nos tétrapodes. On n'a pas obtenu nos tétrapodes. Si vous regardez les objets ici, c'est essentiellement des hexapodes, une silice au centre et puis 6 nodules de polystyrène. Alors, l'explication est assez simple. Pourquoi ? C'est tout simplement que, comme on fait des nodules qui, au final, de polystyrène, qui sont plus petits, même si on est allé à conversion plus loin, au final, ils sont plus petits, eh bien, pour une silice de 85 nanomètres, plutôt que d'accommoder 4 nodules, on est capable d'en accommoder 6. Alors, juste pour vous montrer la statistique, parce que cette fois, à partir de maintenant, je vais vous montrer beaucoup d'objets sur la même image, d'accord ? Contrairement à ce qu'on faisait avant. Donc là, ce qui est important, c'est que c'est une silice de 85 nanomètres, et attention, on est à 99-98% de conversion, hein, on est presque à conversion totale. Si on regarde les statistiques de ce cliché, je vous ai mis ici ces petites croix pour vous symboliser à chaque fois ce qui est un hexapode. Il y en a 64 sur cette photo. On peut remarquer qu'il y a 6 autres clusters. Là, il n'y a que 5 nodules, 5, 5, 5. Là, il y en a 4, mais si vous regardez bien, il y a 2 latex libres juste à côté, donc vraisemblablement, c'est un hexapode qui s'est cassé au moment où on a préparé la grille. Et donc au final, donc on a 64 hexapodes, 6 autres clusters. Donc si on fait un rendement en morphologie rien que sur cette image, on a 91% de rendement d'hexapodes sur ce type d'image. Alors attention, si on fait une statistique globale maintenant, parce qu'on ne traite jamais qu'une seule image, on traite jusqu'à 200 objets par lot. Et là, en l'occurrence, Anthony, hein, je ne sais pas si on a beaucoup d'étudiants qui ont toujours ce courage-là, il a refait 9 fois la manip. Il a fait 9 fois la manip dans les mêmes conditions expérimentales, avec la même silice. Il a fait 200, il a fait plein d'images à chaque fois, les statistiques sur 200 objets. Et il arrive à une statistique solide, cette fois, qui est de 82% d'hexapodes, le reste étant des pentapodes, éventuellement des objets à 4 ou moins, et puis des multisilices que je vais vous montrer sur la photo d'après. Donc là, c'est pour vous montrer comment la recette, cette fois, est plus intéressante. Alors, un cliché de microscopie électronique à balayage, c'est intéressant aussi. C'est plus difficile pour faire de la statistique, parce que là, vous voyez, ça, c'est facile de repérer un hexapode. On voit la silice entre les trois nodules qui sont dessus. D'accord ? Ça, c'est facile. Mais par contre, il y a des tas d'autres morphologies. Dès qu'on ne voit pas la silice, eh bien, du coup, on les coche pas. D'accord ? On ne sait pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des hexapodes, mais ils ne sont pas bien orientés pour qu'on puisse le déterminer. Donc, sur cette photo, là, on peut repérer 61%, plus ou moins 61%, parce que comme c'est par rapport à la silice, c'est qu'on ne voit pas toujours la silice. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que de temps en temps, je vous ai fait des grossissements ici sur ces deux photos, on peut remarquer qu'il y a 2 nodules de silice. Donc on pourrait très certainement améliorer la recette si on faisait attention à bien disperser notre silice au départ. Voilà, donc il y a certainement de l'optimisation encore à faire là. Alors maintenant qu'on attendait des tétrapodes à 85 nanomètres, d'accord, on a des hexapodes. Ça veut dire que l'équation qu'on utilisait avant, d'accord, avec un facteur K qui était de 16,2, n'est plus valable, puisque maintenant, les hexapodes, on les observe pour ces tailles-là. Donc, on a recalculé la constante K, d'accord, qui tombe cette fois à 10,9, donc on a pu déterminer les tailles des silices dont on avait besoin pour faire les tripodes, les tétrapodes, octopodes, nonapodes et décapodes. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, voici les calculs tels qu'ils ont été faits. Donc, on voulait obtenir des tétrapodes. On les attend cette fois non plus à 85, mais à 54 nanomètres. Et voici ce qu'on obtient, le genre de photo qu'on obtient. Alors là, ce n'est pas facile de se rendre compte. D'accord ? En fait, si vous regardez bien, voilà une silice. Elle est toute petite, hein, puisqu'elle ne fait que 54 nanomètres. Et voici 4 nodules. Eh bien, pour vous prouver qu'ici, sur cette photo, il y a 100% de tétrapodes, je suis obligé de vous le montrer comme ça. C'est-à-dire, vous en repérez un, et à côté, vous voyez les autres, systématiquement. Ce qu'il y a en plus, il y a 3 particules de latex libre. Et là, vous avez essentiellement des tétrapodes sur cette recette. D'accord ? Donc, sur cette photo, je dis bien sur cette photo, le rendement, il est de 100% par rapport à la silice. Si on fait maintenant un rendement global, sur tout le lot, eh bien, on retombe aux environs de 80%. Ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire que nos tétrapodes, sur les grilles de thème de microscopie, ils sont capables d'aller se mettre dans des zones où ils vont s'organiser en monocouche. Et les défauts, qui sont les latex libres, qui sont les tripodes et les objets où il n'y a plus qu'un ou deux pods, eh bien, ils vont se mettre à part. La preuve sur cette photo. Donc ça, c'est très bon signe par rapport à l'application qui consisterait à les utiliser pour les assembler. Alors, les tripodes. Si on cherche les tripodes, il faut descendre à 44 nanomètres d'après nos calculs. Mais voilà ce que donne la photo. Et là, surprise, on n'a pas trouvé de tripodes. Il y en a très peu sur la photo. Des tripodes, je crois qu'il y en a un en bas. Là. D'accord ? En fait, on a trouvé ici encore des tétrapodes. Essentiellement des tétrapodes, jusqu'à 80%. Et encore une fois, cette recette, elle a été faite 9 fois. Et on a systématiquement 80%. Enfin, la moyenne fait 80%. Donc là, on commence déjà à se poser des questions assez intéressantes. On peut remarquer que de temps en temps aussi, on a des doublés, hein, c'est les multisilices dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on peut remarquer d'ailleurs là, quand on voit un tripode, on peut remarquer que l'un des pods est beaucoup plus gros que les deux autres. Donc il serait le résultat finalement d'un tétrapode dont deux pods auraient fusionné. Eh bien, il n'y a qu'un pas pour imaginer ça. Alors maintenant, on va regarder sur les tailles plus grandes. Pour faire des octopodes, l'idée, c'était, on a calculé 110 nanomètres. Voici le genre de cliché que l'on obtient. Alors, c'est un petit peu plus difficile à lire. Je vais vous aider en mettant les schémas. Il y a deux types de projections possibles. Soit vous voyez par le dessus, vous voyez bien l'antiprisme à base carrée, soit on le voit de côté, tout dépend comment il est orienté sur la grille, et dans ce cas-là, ça donne cette image. Eh bien, si on prend cette image, eh bien, finalement, il y en a pas mal sur la grille. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal de structures qui ont perdu un pod, ou qui n'en ont que 7, voire 6, voire 5, et puis il y a quelques latex libres. Mais le rendement, il n'est pas génial, mais il est quand même de 54%. Si on veut des nonapodes, on a calculé qu'il fallait être un peu plus grand, il fallait être à 123 nanomètres. Voici un cliché, et voici les nonas qu'on observe sur cette grille. Alors, je n'ai pas la statistique sur cette grille, mais enfin, elle est pas mal, il doit y avoir une vingtaine de nonapodes, il y en a 1 à 8, il y en a 3 à 8, finalement. Là, c'est des octos. Et encore, ce n'est pas toujours facile d'aller déterminer que là, il n'y en a pas 3. 1, 2, 3, c'est toujours quand même un petit peu délicat. Dans ces cas-là, on ne les compte pas. Mais si on fait une statistique globale sur toute la grille, donc sur plus de 200 objets, on trouve 80%. Vous allez voir, dans un instant, ça va nous poser des questions. Quand même. Et puis, quand on cherche les décapodes, il fallait monter jusqu'à 146 nanomètres. 146 nanomètres, voici ce qu'on obtient. Eh bien, on n'obtient pas des décapodes, on a obtenu des dodécapodes, c'est-à-dire 12 nodules et non pas 10. Alors, il y en a un ici à 10 nodules, mais qui n'est pas beau. D'accord ? Par contre, là, vous en avez des qui sont... En plus, ils sont bien positionnés sur la grille. Bon, là, on a laissé un point d'interrogation parce qu'Anthony avait un doute sur un qui est positionné derrière. Moi, j'ai tendance à dire que c'en est un, mais lui, il a un doute, alors il a mis un point d'interrogation. Mais ici, voici sur cette grille un certain nombre d'objets, mais la statistique globale dit qu'on en a 67%. Donc, si je fais le bilan, on attendait ce nombre de pods et on a obtenu ça. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a quand même des morphologies qui sont plus stables que d'autres. Les tétrapodes, bien sûr, on les attendait à 55, mais on les voit aussi quand on attendait des tripodes, on les voit aussi, une manip que je ne vous ai pas montrée, quand on attendait des pentapodes. Les hexapodes sont larges aussi, par exemple, des heptapodes, on n'en voit jamais beaucoup. On a toujours des hexapodes. 8, je vous ai montré 8, je vous ai montré 9, obtenu avec un très bon rendement, et puis 12 au lieu de 10. D'accord ? Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces trois solides-là, qui sont les tétrapodes, donc les tétraèdres, les hexapodes, c'est-à-dire les octaèdres, et les dodécapodes, qui sont en fait les icosaèdres, sont en fait des solides de Platon. C'est-à-dire des objets dans lesquels tous les nodules sont exactement tous à la même distance. D'accord ? C'est-à-dire, c'est des solides dans lesquels on peut faire passer, il y a une sphère circonscrite qui passe par le sommet de tous les objets. Donc ça veut dire qu'on a beau faire des calculs, il y a des morphologies qui sont plus stables que d'autres. Alors, celui qui nous pose des questions, c'est le nonapode. Obtenu à 80%, ce n'est pas un solide de Platon. C'est en fait ce qu'on appelle un... Il est connu, d'accord, mais il n'est pas le plus stable. En fait, vous voyez, il y a trois nodules, il y a un triangle ici, vous avez le même triangle derrière, donc c'est un prisme trigonal, et qu'on dit triaugmenté parce qu'au centre, donc il est comme ceci, mais au centre, il y a le germe de silice, donc il y a trois nodules qui sont écartés et qui sont décalés. Et ce nonapode, eh bien, nous pose un problème parce que les distances entre les atomes ne sont pas homogènes. Et pourtant, on l'obtient à 80%, donc il faut qu'on continue à réfléchir là-dessus. Je pense surtout qu'il faut qu'on travaille avec des mathématiciens qui pourraient certainement nous aider. Voilà. Donc, pour terminer, je voudrais montrer une dernière partie qui est comment on peut utiliser ces objets. Est-ce qu'on peut venir, je reviens à la chimie et des hybrides, est-ce qu'on peut venir déposer une couche de silice en surface ? Couche d'oxyde, pardon. On va commencer par de l'oxyde de titane. Donc, en utilisant un précurseur qui est le tétraisopropoxyde. Je suppose que Clément vous expliquait qu'il est extrêmement réactif. Donc, la grande difficulté, c'est qu'il faut faire la réaction dans l'éthanol pur, le minimum d'eau dans le milieu, ce qui n'est pas toujours facile pour transférer nos objets. On y est arrivé. Et il est tellement réactif qu'effectivement, il va se déposer. Alors là, vous avez sur un hexapode, ou là, vous l'avez sur un tétrapode. Il va se déposer de façon homogène. J'ai tendance à dire qu'il se dépose sur n'importe quoi, tellement il réagit rapidement. D'accord ? Quand on a voulu faire la manip avec de la silice, où là, on a des alkoxydes de silicium qui sont beaucoup plus paresseux, je suppose aussi que Clément vous expliquait qu'il faut catalyser à chaque fois la réaction, catalyse acide, catalyse basique ou catalyse nucléophile, en se mettant dans les conditions Stöber d'une catalyse de l'ammoniac, eh bien, on s'est aperçu qu'on n'a pas déposé la silice à la surface comme on s'y attendait. On a tout simplement relancé la croissance du cœur du germe de silice. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait. Par contre, ça nous a donné une idée. On s'est dit, ce type d'objet, si on est capable d'éliminer le nodule de polystyrène, on devrait être capable de venir faire des cubes de silice ou des tétraèdres de silice. Et bien sûr, je garde la photo pour la fin, c'est ce qu'on arrive à faire. Des formes, je vous avais dit qu'au début, la silice, on pouvait la faire que sphérique, ou on peut la faire sous forme de bâtonnet avec des travaux très récents. Mais là, on va très prochainement publier qu'on peut les faire aussi sous la forme de cubes, sous forme de tétraèdres, ce qui ouvre des tas de perspectives dans les assemblages. Dernière chose, comment faire quand même pour le faire recouvrir entièrement de silice ? Puisqu'on a vu que la silice vient se déposer sur le cœur, mais pas sur les nodules périphériques. Donc là, on va ruser, on va faire croire que les nodules de polystyrène sont en fait de la silice. C'est-à-dire que dans la recette de polymérisation en émulsion que je vous ai présentée au départ, on met essentiellement du styrène, mais aux derniers instants, dans les dernières minutes, on va rajouter cette molécule qui ressemble beaucoup à celle que je vous ai présentée tout à l'heure, le MMS. Il n'y avait qu'un groupement méthylène qui séparait l'alkoxyde du groupement métacrylate. Là, c'est un petit peu plus long. Cette molécule, elle est capable de copolymériser. Donc, elle va se retrouver, comme elle arrive à la fin d'une réaction de polymérisation, elle se retrouve à la surface des nodules de polystyrène et elle présente à l'extérieur des alkoxydes de silicium qui sont éventuellement déjà préhydrolysés. Ce qui fait que cette fois, quand on met tout ça en présence de Théos, eh bien, on a bien un recouvrement homogène de chacun des tétrapodes ici par de la silice, et c'est ce que vous pouvez voir ici sur un lot où vous pouvez voir de temps en temps aussi un latex libre qui a subi le même traitement. Voilà. Donc, pour terminer, je voudrais juste vous montrer trois pistes d'exploration. Nous, on a l'intention d'aller explorer à la suite de ces travaux. La première, c'est ce qu'on appelle les particules à patch. Patchy particles en anglais. L'idée, c'est que dans notre système, là, je vous ai remis la recette. Le germe de silice modifié en surface, on fait la nucléation des nodules de polymère, ceux-ci croient, se réarrangent et forment, par exemple, un tétrapode. Si, maintenant, on est capable de venir... On vient voir qu'on est capable d'aller faire de la chimie spécifiquement à la surface. Si on est capable, maintenant, de venir faire greffer, je ne sais pas, un alkoxysilane, comme on sait qu'il y a déjà quelque chose, mais que c'est en faible quantité, il y a encore de la place pour accrocher autre chose. Un alkoxysilane qui va apporter une fonction, je dis n'importe quoi, par exemple, une fonction amine, d'accord ? On décroche les nodules de polystyrène qui nous ont servi de masque, et on va faire apparaître ce qu'on appelle des patchs. On aura ici quatre patchs qui seront exactement orientés dans la direction d'un tétraèdre, puisque ici la construction était tétraédrique, et sur lequel on peut s'amuser à faire venir une autre chimie. Par exemple, si ici j'ai dit des fonctions amines, on peut venir mettre des fonctions carboxyliques, par exemple, là. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça ouvre la possibilité à des tas de nouveaux assemblages. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelques années, Glotzer avait fait essentiellement des simulations avec des particules à patch. D'accord ? Elle les met dans une boîte, elle laisse l'agitation thermique et puis elle regarde au bout de quelques temps ce qui se passe. Donc là, par exemple, ceux-là, ils sont capables de s'aligner sous forme de plan. Ceux-là sont capables de venir se mettre sous forme de globules. D'accord ? Donc nous, on peut imaginer maintenant qu'à partir de ces particules, on pourrait essayer de faire la même chose. Il y a juste, à ma connaissance, il n'y a personne qui a aujourd'hui fait des particules à patch, au moins dans le domaine nanométrique. Micrométrique, oui, mais nanométrique, non. Et puis, si je reviens sur mes histoires d'empilement, je vous avais expliqué tout à l'heure qu'empiler des sphères, finalement, ça n'amène pas beaucoup d'arrangements possibles. Quand on empile des sphères, ceux qui empilent des atomes, ils le savent, on peut faire soit un empilement cubique à face centrée, hein, on a trois types d'empilements décalés comme ceci, ou des empilements hexagonaux compacts, et c'est tout. Maintenant qu'on a des particules à patch, on a quatre patchs ici, orienté vers les quatre sommets d'un tétraèdre, on peut rêver de la structure diamant. où vous voyez que chaque atome ici est entouré de 4 atomes. Et on pourrait donc atteindre par empilement de ces atomes une structure qui n'est pas compacte, mais qui est très intéressante, en particulier dans le domaine des cristaux photoniques, parce que ça serait la bande interdite complète, d'accord, qui serait donc une structure diamant. Enfin, deuxième piste d'amélioration, pardon, ou d'exploration, ça, c'est des travaux très récents qu'ont publié Sakana et Pine, d'accord, où ils ont développé, attention, on est à l'échelle micrométrique ici, des objets qui sont des billes de polymère qui ont une petite encoche à l'intérieur. Ils sont suffisamment gros pour qu'ils puissent les regarder par microscopie optique. Ils les mettent dans un milieu liquide dans lequel elles ont la place de bouger. Ils les laissent s'associer par des phénomènes de déplétion et des petites particules. Et ici, là, ce n'est pas trois objets différents, c'est le même objet observé à des temps différents. Avec une caméra, ils sont capables, puisque c'est micronique, là, ils sont capables de les voir. Et ils les voient bouger, ils les voient respirer. Hein, de la même façon que des atomes vibrent et donnent ce qu'on voit quand on fait des spectres infrarouges. Donc, ils sont capables de le voir ici. Et nous, ça nous donne des idées, parce que nous, avec nos objets ici, eux, ils ont une seule encoche. Nous, on peut contrôler le nombre d'encoches, et on peut contrôler leur direction, et on est dans le domaine nanométrique. Ce sera plus difficile pour l'observation, je suis d'accord avec vous, mais on va certainement pouvoir aller aussi regarder des choses de la même façon qu'eux sur ces interactions, c'est-à-dire combiner à des interactions chimiques des interactions qui sont essentiellement contrôlées aussi par la forme des objets. Enfin, dernière chose, les clusters, je vous ai présenté des clusters qui avaient un germe de silice et des nodules de polystyrène autour. Est-ce qu'on ne peut pas rêver de faire l'inverse? Le principe serait le suivant. Je pars d'un nodule de polystyrène réticulé. Je vous ai montré tout à l'heure que quand on utilise le TEOS, il aime aller dans les milieux organiques. Donc si on met notre nodule ici, notre latex, si on le met dans l'eau, eh bien aussitôt il va gonfler de TEOS. D'accord ? Et on peut espérer que le TEOS après va revenir à la surface, commencer à s'hydrolyser, et commencer à donner des nodules de ce type-là, c'est-à-dire faire le système inverse, où on a un germe de polystyrène réticulé qui est au centre et des nodules de silice. Alors, si je vous montre ça, c'est parce qu'on a déjà des images qui nous montrent qu'a priori, il y a une piste. Alors, ce n'est pas beau, c'est loin d'être au niveau de contrôle de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais voici des nodules de polystyrène réticulé sur lesquels on est capable d'aller faire des nodules de silice qui ne forment pas un film continu, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui forment des nodules indépendants. Et là, très certainement, la solution va être de contrôler l'interface, toujours le même problème, de contrôler l'interface, la surface du germe de polystyrène, notamment en copolymérisant cette fameuse molécule MPS qui permet de rendre plus ou moins hydrophile la surface pour que les nodules s'accrochent et mouillent plus ou moins la surface. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Je n'ai pas vraiment de conclusion. Je voulais juste remercier les collègues, donc les quatre étudiants qui, ces dernières années, ont travaillé avec nous sur ce sujet. Serge Raven, qui est mon collègue physico-chimiste avec lequel on développe ça entièrement. Nos collègues polyméristes de Villeurbanne, Élodie Bourgelamy, Muriel Lansalo. Des collègues biologistes qui sont tout simplement les gens avec qui on fait la cryo et la tomo, la cryomicroscopie et la tomographie électronique. Et puis, le dernier binôme qui travaille avec nous, Olivier Spalla, Antoine Thiel, j'ai même oublié Luc Belloni, avec qui on regarde, je ne l'ai pas du tout présenté, toutes les interactions que ces objets peuvent présenter, notamment avec des mesures sur les grands instruments. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.